France Inter, 8h22.
France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
C'est drôle, il y a des êtres comme ça, ils sont chargés. Ils arrivent de l'infini, viennent apporter devant vous leur grand barda de sentiments comme au marché. Ils se méfient pas, ils déballent n'importe comment leurs marchandises. Ils savent pas comment présenter bien les choses. On n'a pas le temps de fouiller dans leurs affaires, forcément, on passe. On se retourne pas, on est pressé soi-même. Ça doit leur faire du chagrin. Ils remballent peut-être, ils gaspillent, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils deviennent? On n'en sait rien du tout. Ils repartent peut-être jusqu'à ce qu'il leur en reste plus. Et alors où qu'ils vont? C'est énorme la vie quand même. On se perd partout. Voilà, c'était un court extrait de Guerre, l'inédit de Louis-Ferdinand Céline que les éditions Gallimard publient la semaine prochaine, jeudi 5 mai. Deux invités pour nous raconter comment ce livre arrive entre nos mains. Le premier est historien, spécialiste de l'édition, il est l'éditeur de ce texte de Céline. Le second est avocat, grand ami de Lucette Destouches, la veuve de l'écrivain ayant droit de Céline et auteur de l'avant-propos de Guerre. Pascal Fouché, François Gibault, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être à notre micro ce matin. On va retracer dans une seconde l'histoire folle, romanesque, et les mots sont faibles, qui a conduit à la publication de cet inédit de Céline et de ceux qui vont suivre. À l'automne prochain, Londres et la volonté du roi Krogold, puis en 2023 avec la nouvelle édition de Casse-Pipe. Mais un mot d'abord, un mot, quel sentiment éprouvez-vous en ayant là, ce matin, il est 8h24, ce livre, en main dans la collection Blanche de Gallimard, cette inédite Céline que le public va pouvoir lire dans quelques jours. Est-ce tout simplement de l'émotion, François Gibault?
C'est d'abord une immense satisfaction, hein, parce que...
C'était pas gagné, hein.
C'était pas gagné, c'était pas évident. Ce sont des textes sur lesquels on court depuis, 60 ans, peut-être plus. Et aussi une grande émotion. Mais l'émotion, ça a été quand j'ai eu en main le manuscrit lui-même. Lire un livre comme ça, c'est une chose, mais découvrir surtout un manuscrit qu'on cherchait depuis des années et qu'on a devant soi, en main, dans un bon état, ça a été un miracle, ça, parce que j'avais peur que ces manuscrits aient séjourné dans des caves humides. Non, le manuscrit est en très bon état. Et l'émotion, évidemment, était très forte, surtout que moi, j'avais travaillé sur le dernier Céline, qui était Rigaudon, pendant très longtemps, de nombreux mois, avec Madame Céline, d'ailleurs. Et le contact avec le manuscrit, c'est vraiment très émouvant.
Et vous, Pascal Fouché, de l'émotion aussi, en plus du travail que vous avez fait pour établir le texte?
C'est forcément de l'émotion, mais c'est aussi une découverte d'un écrivain qui, comme d'habitude, nous surprend, nous étonne, toujours se renouvelle. C'est une époque de sa vie qu'il n'avait pas encore racontée, qu'on ne connaissait pas dans son œuvre, et donc ça apporte aussi sur la connaissance de...
Vous dites une découverte, c'est-à-dire...
Absolument, parce que...
C'est un nouvel éclairage sur l'écrivain.
Oui, Céline avait évoqué la guerre dans Voyage au bout de la nuit, mais très brièvement, et là, c'est vraiment le centre du livre, et on ne connaissait pas l'existence de ce manuscrit. On savait qu'il y avait des manuscrits qui avaient disparu, mais... qu'il y ait un manuscrit sur la guerre, qui est en fait la fin de la guerre, puisque c'est le moment où il est blessé et où il va être soigné, on ne le savait pas. Donc cette découverte, et puis cette écriture qui toujours nous fascine, entre Voyage au bout de la nuit et puis les ouvrages postérieurs, et dont on sent très bien l'écriture intense et ce qui l'habite.
Alors on va revenir évidemment dans Guerre, dans le cœur du livre, mais je voudrais qu'on retrace pour nos auditeurs le périple de ces manuscrits qui ressurgissent du néant. Il faut revenir à la fin de la Seconde Guerre mondiale, juin 44. Céline, collaborateur notoire, fuit Paris pour l'Allemagne et le Danemark. Il laisse derrière lui des manuscrits dans une armoire de son appartement de Montmartre. Il n'aura de cesse par la suite de dire qu'on les lui a volés, qu'il a été pillé. De fait, les manuscrits ont disparu. Où sont-ils passés? Ça, on ne le savait pas. François Gibault.
On ne le savait pas, mais Céline le savait quand même. Et donc, on le savait, nous aussi, un petit peu. Puisque dans des lettres qu'il a envoyées, il s'est toujours plaint du fait que Oscar Rosenbly, qu'il connaissait d'ailleurs, qui travaillait, on dit qu'il établissait sa comptabilité, il connaissait donc l'appartement et il connaissait le contenu de l'appartement. Car Céline, partant avec sa femme et son chat en train, a emporté des manuscrits, mais il n'a pas pu tout emporter. C'est un volume considérable. Hein. Mmh. Et donc, on le savait. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de savoir que dans les lettres de Céline, quand il est en prison au Danemark ou après, quand il est au Danemark, il dit « voilà ce que j'ai laissé là-bas, et voilà ce qu'on m'a volé ». Or, quand on a découvert les manuscrits il y a 2 ans, eh bien, c'était exactement les
le
textes.
Contenu.
Voilà. Mmh. Donc toute cette histoire, les Céliniens la connaissaient. Ah, moi, je la connaissais parce que j'avais travaillé sur une biographie de Céline que j'ai publiée il y a longtemps. Et le miracle est intervenu, oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, on m'a téléphoné pour me dire que ces manuscrits avaient été retrouvés.
Voilà, c'est l'été dernier, le quotidien Le Monde qui publie un article fascinant intitulé « Les trésors retrouvés de Louis-Ferdinand Céline ». Je raconte à gros traits, très rapidement, Pascal Fouché, l'histoire. Au cœur de la réapparition, il y a Jean-Pierre Thibaudat, ex-critique théâtral du quotidien Libération. Il dit qu'un de ses lecteurs lui a remis, il y a une bonne dizaine d'années, les milliers de feuillets de Céline sous couvert d'anonymat. Il les a gardé retranscrit, puis les a remis à l'avocat Emmanuel Pierrat quelques semaines après la disparition fin 2019 à 107 ans de la veuve de Céline, Lucette Destouches. Donc voilà, c'est à ce moment-là
avec cette précision que la personne qui lui a donné lui a interdit de les donner à Madame Céline de son vivant.
Voilà, et c'est
donc,
là que vous...
Donc il savait bien qu'elle en était propriétaire.
Voilà, et c'est là que Maître Gibault intervient et récupère ses manuscrits
voilà,
à la police.
Il faut dire les choses simplement. Je suis avec Véronique Chauvin, l'un des deux héritiers de Madame Céline. Mmh. Et donc, indirectement de Céline. Mmh.
On parle de combien, de quel volume, Pascal Fouché, de textes, de feuillets?
On parle de plusieurs milliers de feuillets, mais le manuscrit de guerre lui-même fait 250 feuillets, et le manuscrit de Londres, par exemple, fait 4 ou 5 fois plus, un peu plus de 1100 feuillets, donc ce texte est assez court, guerre est assez court, mais Londres est beaucoup plus long. Et puis il y a un manuscrit des manuscrits plus connus, un manuscrit de Mort à Crédit.
Oui, il y a des manuscrits déjà publiés.
Et puis des séquences de casse-pipe aussi qui vont venir compléter ce qu'on connaît de casse-pipe.
Est-ce que vous diriez que ce qu'on a retrouvé là va modifier la perception qu'on a de l'œuvre de Céline, voire son architecture?
Bah, c'est surtout la chronologie de son œuvre que ça peut modifier. On fait des hypothèses. Évidemment, les Céliniens, on ne sera pas tous d'accord sur la chronologie, mais on imagine. Et moi, je crois que Céline a écrit ce petit roman Guerre au moment où il écrivait Mort à Crédit. Donc entre Voyage et entre la publication de Voyage au bout de la nuit et la publication de Mort à Crédit, il prévoit dans Mort à Crédit de traiter son enfance, la guerre et Londres. Or, il ne publie finalement que le premier tiers. Il le dit à son éditeur, on va publier le premier tiers parce qu'il est déjà très gros, qui donne Mort à Crédit. Donc il nous manquait guerre et Londres, et comme par hasard, dans les manuscrits retrouvés, nous avons effectivement un manuscrit qui est la guerre et un manuscrit qui est Londres.
Donc guerre, roman sur la guerre de 14, l'action se situe dans les Flandres, personnage principal le brigadier Ferdinand, de sa grave blessure sur le champ de bataille jusqu'à son départ pour Londres. Vous le disiez tout à l'heure, Pascal Fouché, cette guerre, Céline l'avait partiellement racontée dans Voyage au bout de la nuit, mais il finissait le récit par une ellipse, et puis il s'est passé des choses et encore des choses qu'il n'est pas facile de raconter à présent, à cause que ceux d'aujourd'hui aujourd'hui ne les comprendrait déjà plus. C'est donc là qu'il reprend le récit, en quelque sorte,
oui,
avec ce livre-là qui est publié.
Oui, alors il nous manque le début, probablement, puisqu'en fait, il ne raconte pas réellement ce qui se passe entre août et octobre 1914, le moment où, justement, il est engagé dans les combats. Mais on le retrouve au début de guerre, blessé, comme on sait que Louis Destouches a été blessé, et il se réveille sur le champ de bataille, et il a pris une balle dans le bras, et il est blessé, et il est récupéré par des soldats anglais, et conduit à l'hôpital. Et c'est tout ce séjour à l'hôpital qu'il va raconter dans Guerre. Alors bien évidemment, ça correspond à ce moment de sa vie, mais comme avec Céline, toujours, son imagination prend le pas sur la réalité, et là, c'est là qu'on a effectivement des scènes extraordinaires qui se déroulent, en particulier à l'hôpital et dans le village.
On va revenir à l'hôpital. Dans l'avant-propos, François Gibault, vous dites que ces pages ont un accent de vérité, je vous cite, qui donne à penser qu'il s'agit de la relation de souvenirs vrais, mais vous nuancez à l'extrême ce qu'on pourrait simplifier en disant que c'est un livre autobiographique. Vous montrez que c'est beaucoup plus compliqué que ça chez Céline. Il raconte évidemment une expérience vécue, mais en même temps, la littérature le diffracte, le réfracte de mille manières. On est donc dans un autre rapport à la vérité factuelle.
Oui, oui. J'ai écrit quelque part que Céline n'était pas un écrivain d'imagination, en ce sens que il y a un fond de vérité dans tout ce qu'il écrit. Mais il écrit généralement avec une vingtaine d'années de retard. Et à ce moment-là, c'est l'imagination de l'écrivain qui intervient, qui déforme les faits. Alors il y a donc un fond de vérité, mais heureusement, l'écrivain est intervenu et son imagination a travaillé et ça donne des chefs-d'œuvre.
Il y a cette phrase dans le roman, « J'ai attrapé la guerre dans ma tête ». J'ai attrapé la guerre dans ma tête. Oui. Comment la comprendre, Pascal Fouché ?
Je crois que c'est une phrase qui résume très bien à la fois l'œuvre dont on parle, puisque c'est effectivement le récit de cette blessure. Et puis, ce qui va marquer l'écrivain, on sait que Céline a été marquée par cette guerre de 14 et que toute sa vie, il a ressenti les séquelles de ses blessures. Alors effectivement, il romance, il enjolive un peu la vérité. Il dit qu'il a reçu une balle dans l'oreille, ce qui n'est pas vrai. Il a effectivement reçu un coup et été blessé à l'oreille. Il a ressenti toute sa vie des bourdonnements dans la tête. Il l'a dit à de nombreuses reprises. Et donc ça a conditionné son existence à la fois d'écrivain, mais aussi de médecin et d'homme. Et il en a été profondément marqué. Et vraiment, ce récit, cette expérience est formidable.
La guerre m'avait donné aussi à moi une mère, pour moi tout seul, mère M-E-R, pour moi tout seul, une grondante, une bien toute bruyante dans ma propre tête. Vive la guerre ! Point d'exclamation.
On sent, il écrit 20 ans après les faits, mais on sent combien la mort est présente dans ce livre, combien il a été marqué.
Il y a deux thèmes principaux dans le livre, qui sont les thèmes de toute l'œuvre de Céline, c'est la guerre et la mort.
Et le sexe.
Il y a quand même beaucoup.
Voilà.
Le sexe, alors, je peux pas lire les extraits, à cette heure-ci. Si on avait fait cette émission peut-être plus tard dans la nuit, mais alors c'est décrit, c'est vraiment.
Oui, on ne sait pas. On se demande si l'éditeur à l'époque l'aurait publié, quand on sait que des bouts de Mort à crédit ont été censurés par son éditeur.
Expliquez-nous ce qui se joue là.
Il aurait certainement pas publié de cette façon-là, mais aujourd'hui, malgré tout.
Le temps a passé.
Enfin, à 8h36, c'est un peu compliqué de raconter ce qui se passe avec Mademoiselle Lespinasse.
Alors voilà, il se passe, il a manifestement une liaison avec cette infirmière qui le soigne, et puis ensuite il a une liaison aussi avec la femme d'un souteneur, donc une prostituée, avec laquelle il va partir pour Londres, d'ailleurs, et qu'on retrouvera dans
la partie romancée, hein, parce que il
absolument
part pas, on sait qu'il part à Londres, mais après il part de Paris après avoir été soigné au Val-de-Grâce. Donc là, il a pris quelques libertés avec la vérité.
Dans le roman, effectivement, le roman se termine au moment où il va partir pour Londres et pour y retrouver cette prostituée et un de ses clients avec lequel il y a eu une scène d'anthologie, puisque la prostituée qui s'appelle Angèle lui fait jouer le rôle de son mari qui la surprend avec son client, et son client leur propose de les emmener à Londres, et on va les retrouver dans le roman suivant qui paraîtra à la rentrée.
Guerre, mort, sexe, comment fonctionne ce triangle dans l'œuvre de Céline ? Vous avez dit l'un et l'autre qu'il était absolument crucial pour comprendre les livres.
Ah ben, la guerre a marqué la vie de Céline a été marquée profondément par cette guerre, non seulement les séquelles, mais il a craint, et à raison, la Seconde Guerre. Il en a subi les conséquences, et son œuvre est traversée par cette épreuve et par la guerre, et donc par la mort aussi, puisqu'il a frôlé la mort de près, manifestement on le voit bien, on le sent, et il en a toujours été marqué, et son expérience de médecin aussi profondément.
La mort, il l'a aussi connue comme médecin.
Voilà,
il a été confronté toute sa vie à la mort.
Il y a une scène incroyable, celle de la visite de ses parents sur son lit de convalescent. Il s'exclame « Jamais j'ai vu ou entendu quelque chose d'aussi dégueulasse que mon père et ma mère ». Là aussi, comment...
C'est très violent.
C'est de la haine et du comique pur. Je ne sais pas comment le dire autrement.
C'est du Céline. Déjà, dans Mort à crédit, il n'est pas tendre avec ses parents, mais là, c'est encore pire, effectivement. Ça fait partie de ces scènes d'anthologie du roman qui sont formidables, parce qu'on rit. Tellement c'est excessif.
Là, c'est énorme.
On sait qu'il avait des relations très apaisées avec ses parents, donc c'est forcément le romancier qui parle.
On va passer au standard de France Inter, où nous attendent les auditeurs. Je salue Yves, vous nous appelez d'Orléans. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Je voudrais savoir, en point de vue technique littéraire et technique de transcription, parce que vous dites que c'est un manuscrit, c'est-à-dire il l'a écrit, c'est pas un tapuscrit, donc il y a des ratures, il y a des pointillés. Est-ce que le style, on retrouve le style brouillon quand même qu'on a dans les manuscrits, est-ce qu'on le retrouve dans Guerre, ou est-ce que c'est bien écrit, ou est-ce que c'est bien corrigé? Vous avez du mal à retranscrire tout ce qu'il avait à dire.
Merci Yves pour cette question technique. Pascal Fouché vous répond.
Oui, effectivement, c'est un manuscrit. En plus, c'est un manuscrit de premier jet. Et on connaissait assez peu de manuscrits de premier jet. On sait que Céline travaillait beaucoup ses textes, faisait plusieurs versions, qu'ensuite il faisait dactylographier une version qu'il estimait pratiquement aboutie, et qu'il retravaillait encore sur cette version, et qu'il retravaillait aussi sur les épreuves du livre. Là, on a affaire à un manuscrit de premier jet qui est écrit de façon très... très rapide, très rageuse, avec son écriture de médecin qui est effectivement difficilement lisible. Donc il rature, il réécrit entre les lignes, et d'où la difficulté effectivement de transcrire un tel texte. Il reste quelques petits mots qu'on n'a pas pu lire, malgré toute l'aide que mon éditeur et que les ayants droit m'ont apporté. Mais c'est quand même extraordinaire de découvrir comment, du premier coup, Céline arrive à un texte qui tient la route, il faut bien le dire, et qui est formidable, et dont on voit bien, dont on sent bien, par quelques répétitions, quelques maladresses, qu'il l'aurait retravaillé forcément. Mais ce travail brut est aussi extraordinaire.
C'est pas un brouillon, c'est une esquisse, c'est une promesse.
C'est un premier jet. C'est ce qu'on appelle un premier jet. C'est la première rédaction finalement qui l'aurait forcément reprise et améliorée. On le sent. Il y a des personnages qui changent de nom. Il y a des personnages dont les noms sont pas écrits de la même façon. Tout ça, il y a peu de ponctuation. Tout ça aurait été corrigé, bien évidemment, par Céline.
Mais François Gibault.
Pascal Fauché a fait un travail formidable parce que il y a des mots. On a correspondu à ce sujet. Il y avait vraiment des mots très difficiles à lire et tu as, je dois dire, bien transcrit ce manuscrit.
Aussi.
Allez, on retourne au standard. Jean-François à Toulouse. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour. Bon, je vais exprimer peut-être un lieu commun, mais pour moi c'est très difficile de distinguer l'écrivain du passé qu'il a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, à savoir un passé de collaborationniste et d'antisémitisme. Ceci dit, je suis pas du tout contre la publication de ce roman inédit. Voilà, et je voulais poser la question suivante à vos invités. Comment se positionne-t-il par rapport à ce lourd passé de Céline pendant la Deuxième Guerre mondiale?
Merci alors, Jean-François, pour cette question qui revient beaucoup aussi sur l'application de France Inter. Muriel nous interpelle avec vigueur. Céline, c'est une blague consacrée du temps d'antenne à ce personnage monstrueux. Ça me rappelle un sujet de philo. Peut-on séparer l'homme de son œuvre? Donc beaucoup de questions sur ce thème. François Gibault, si vous voulez répondre à Jean-François, Muriel.
Oui, bien sûr. Alors, le grand collaborationniste, il faut pas exagérer. Hein.
Enfin là, on parle des pamphlets antisémites. Hein.
Non, mais on a parlé aussi du collaborationniste. Hein. Il a été jugé par défaut, c'est-à-dire sans avocat, et il a été condamné à 1 an de prison. Hein. Alors que Brasillac était condamné à mort, beaucoup d'autres étaient condamnés à perpétuité ou à des très lourdes peines. Moi, j'ai vu le dossier de Céline de collaboration, il y avait vraiment pas grand-chose. Hein. Voilà, premièrement. Alors, l'antisémitisme, c'est évidemment autre chose. Je me suis personnellement battu pendant des années pour éviter toute republication des pamphlets. Madame Céline était d'accord avec moi. Nous avons tous les deux été d'ailleurs menacés de mort par des lettres anonymes parce que on censurait Céline. Bon, Céline était antisémite, ça c'était une rare évidence, mais il n'était pas seul. Hein. Il n'était pas seul. Il y avait Brasillac, il y avait Drieu-La Rochelle, il y avait Bernanos qui après la guerre a dit. Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Ça veut dire que sans Hitler, bon mon Dieu, l'antisémitisme c'était une chose normale. Il y avait Rebatet, il y avait Maurras, il y avait Jouandeau, il y avait Giraudoux, et il y en avait des quantités, hein. Les frères Tarot, Abel Bonnard, etc. Donc il n'était pas seul. Hein. Mais aujourd'hui, on parle de Céline antisémite. Les autres, on a un peu oublié. Hein. Il y en a qui sont allés, comme Paul Morand, à l'Académie française, etc.
Là, c'est les pamphlets qui marquent, je pense, je ne veux pas m'exprimer à leur place, mais qui marquent les interventions de nos auditeurs. Sur cette question, Pascal Fauché, l'homme, l'œuvre et l'œuvre en elle-même. Il n'y a pas que l'homme et l'œuvre, oui, il y a l'œuvre aussi.
Non, mais on peut pas, dans
sa totalité.
On ne peut pas contester que Céline a écrit des ouvrages qui sont abjects. Ça n'enlève rien, à mon sens, à son génie. Et à son œuvre romanesque par ailleurs, dont tout le monde reconnaît qu'il est un des grands écrivains du XXe siècle. Donc effectivement, le fait d'être un génie n'empêche pas d'être un salaud.
François Gibault.
Bien sûr.
Ça vous va comme conclusion?
Le terme salaud, évidemment, est très péjoratif, mais il est certain que Céline a écrit des pamphlets antisémites. Qu'il a ensuite d'ailleurs renié, et qui sont d'une violence absolument extraordinaire.
Voilà, mais ça n'enlève rien à son génie.
Ça n'enlève rien à son génie.
Et à son œuvre formidable.
Merci messieurs, merci beaucoup d'être venus ce matin dans le 7-9 nous parler de guerre, cet inédit donc de Louis-Ferdinand Céline. Édition établie par vous, Pascal Fouché, Avant-propos que vous signez, François Gibault, publié donc dans la collection blanche de Gallimard en librairie jeudi prochain. Et je voudrais également renvoyer vers l'exposition Céline, les manuscrits retrouvés. C'est à la galerie Gallimard, sous le commissariat d'Alban Cerisier, le 6 mai prochain pour l'ouverture et jusqu'au 16 juillet.